aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Outrequin. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Je te reçois aujourd'hui dans nos studios. En tant que citoyen, on s'est croisés dans les rues de Cahors, nous avons discuté autour de ce pass sanitaire, de ce Covid, tout ça, etc. Et je me suis dit, tiens, toi, je vais te faire venir à la radio parce que tu as beaucoup de choses à dire. Alors, tu es citoyen, tu as été aussi gilet jaune au début, hein, voilà, dans ton parcours. Hein.
Oui.
Et peut-être c'est comme ça, tu voulais un peu présenter voilà, ce parcours, ce qui t'amène à être devenu un militant.
Dès le départ, si tu veux, il y avait des choses qui me dérangeaient, même déjà sous François Hollande, mais avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, j'ai tout de suite vu qu'il laisse passer quelque chose, une dynamique, mais cette dynamique, je la sentais pas positive dès le départ. Il y a quelque chose qui m'a... Déjà au moment du vote, ça a été compliqué pour moi. J'ai ressenti à cette époque-là, tu dois te souvenir... les histoires du PS qui ont lâché Benoît Hamon, des choses comme ça. Donc, quand on est à l'écoute un peu politique, on dit, tiens, il se passe quelque chose. Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Et donc, il y a tout un parcours qui m'interrogeait. Et effectivement, est arrivé très vite cette histoire de passer 90 à 80 km/h d'une manière mais très autoritaire. Le débat n'est pas de savoir si c'est 90 ou 80 le mieux ou pas, enfin voilà. Mais cette façon très autoritaire qui empêchait au niveau des départements, du conseil général, régional, de prendre des décisions. Donc c'est encore tout de suite une centralisation. Ensuite, il y a eu l'élément déclencheur, mais qui était sous-jacent, c'est-à-dire déjà sous François Hollande, cette tension sociale. Simplement parce que les pauvres sont de plus en plus pauvres, on le sait. Quand on regarde le salaire médian et le salaire le plus bas, ça tourne autour de 1000, 1100 euros. Salaire médian, donc c'est-à-dire 50% des gens touchent moins de 2200 euros. Et quand tu commences à t'intéresser et que tout d'un coup tu vois la montée incroyable du gasoil et de l'essence par une taxe supplémentaire, l'écotaxe, et là les gens... Oui, cette curiosité, il dit, mais c'est quoi cette taxe? Et quand on s'est aperçu qu'un tiers est retourné pour l'écologie, là, on dit, il y a quelque chose qui va pas. Mais le point de départ, pour moi, il est pas là. Il est d'avant, même sous François Hollande, sous Sarkozy, voilà. Donc, je pense qu'il y a une montée progressive. Et le premier jour de la manifestation, j'ai trouvé ça très bien, la façon dont c'est fait, l'histoire d'être visible avec le gilet jaune. Donc, dès le premier jour, j'y étais, voilà. Et donc, tous les jours, les premiers mois, au péage 56, pour aller sur Gourdon, et dans une bonne ambiance, et très, très pacifique, donc aucun problème, voilà.
Alors, pour entamer cette discussion, hein, cette interview qu'on va faire ensemble, tu voulais d'abord commencer par nous faire un tableau de celui que je vais appeler l'encore président.
En fait, j'ai voulu comprendre cette personne que je... En fait, on a réagi, enfin tu as réagi parce que tu m'avais vu aussi par rapport à Martel.
Oui, tout à fait, tout à fait. À la visite, quand il était venu sur Martel, il y avait les différentes chaînes médiatiques qui montraient comme ça des paroles de citoyens. Toi, on te voit. Alors là, les gens ne te voient pas, mais tu as un physique quand même qui est assez reconnaissable hein, par rapport à d'autres. Tu as quand même ta stature. Et donc, tu es très reconnaissable. Je t'ai vu dire un truc. Je me rappelle, c'était sur la chaîne France Info. Et juste à ce moment-là, la voix off couvre ta parole. Et elle n'avait laissé France Info hein, comme parole de citoyen que la parole d'une dame qui disait « Oh, monsieur le président, je vous ai envoyé un livre dédicacé, vous m'avez pas répondu. » Et on a laissé ça. Et du coup, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai balayé toutes les chaînes médias et je t'ai pas vu. Après, derrière, enfin voilà. Et donc, c'est ce qui m'a amené, je me suis dit, tiens.
Voilà. Alors, en fait, si, c'est très surprenant, c'est qu'il y a des gens, moi, je savais pas que j'étais passé comme ça, donc aux infos. Et c'est des amis de Paris qui m'ont vu et qui m'ont vu sur Pascal Pro, CNews, BFM. Après, c'est passé. Dans la dépêche, tout d'un coup, je me retrouve avec le petit commentaire que j'ai fait. Et en fait, j'ai pu discuter à peu près 6 à 7 minutes avec Macron. Donc, j'ai pu voir, j'allais dire, le personnage plus que la personne, en fait. Parce qu'il était, il faut se l'avouer, il était en campagne préélectorale. Il n'était pas là pour savoir si les gens ont bien vécu ou pas bien vécu le Covid. Alors, c'était le support.
Oui, et en campagne préélectorale, je le dirais, financée par nos impôts. Parce que normalement, une campagne électorale, c'est financé par l'argent du parti. Hein, et sa manière de le rechercher, qui est plus ou moins honnête, on connaît les différentes affaires de plein de partis politiques maintenant.
Oui, oui.
Mais là, c'est quand même une campagne préélectorale financée par l'argent public.
Tout à fait, voilà. Donc, ça rappelle un peu d'ailleurs le grand débat qui est passé sur BFM, CNews, 92 heures sur les chaînes d'information continue. Mmh. Et là, c'est pareil, on pouvait se poser les questions, puisque ce n'était pas un grand débat, en fait. Hein. Si on se souvient bien, c'était questions-réponses et il y a eu un certain filtrage des questions. Donc là aussi, c'était avec l'argent du contribuable. Mais bon, Monsieur Macron, c'est pas le premier. Mais là, c'était quand même presque de la provoque, en tout cas pour moi. Voilà.
Alors, qu'est-ce que tu lui avais dit ?
Alors, je lui ai dit, je lui ai parlé d'abord qu'il fallait pas qu'il oublie qu'il s'en comptait les abstentions en faisant un prorata.
Oui, oui, oui.
Des abstentions et des bulletins blancs. J'avais fait un petit calcul, une petite règle de 3. Et en fait, il tourne à 20% au premier tour. Donc, pas, c'est pas 24, c'est 20%. Donc, je lui ai rappelé qu'il était élu simplement par 20% des gens, et parmi ces 20% des gens, il y en a quand même beaucoup qui font partie des personnes qui sont au-dessus du salaire médian de 2 200 €, la majorité, beaucoup de Parisiens, hein. Beaucoup de citadins de grandes villes, que je peux tout à fait comprendre, mais et donc je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'ils tiennent compte des 80% du peuple qui sont en souffrance, pour la plupart, ce qui était un petit peu un rappel par rapport aux gilets jaunes, qui, je rappelle, les gilets jaunes, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un individu en jaune, mais un mouvement, avant tout, hein, visible. Voilà. Et donc, par rapport à ça, bah, il est resté très flou, sourire, c'est un très grand séducteur. Hein. Voilà. C'est un grand séducteur, moi, j'ai vu tout de suite, et il est dans, pour moi, hein, bien entendu, il est dans un personnage, un rôle qu'il aime. Il aime la confrontation parce qu'il est très fort, il faut reconnaître ses qualités, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de très réactif, qui a une mémoire phénoménale. Donc il a les qualités pour ça, il aime ça, la confrontation. À tel point que des fois ça va trop loin, parce que si tu as regardé, peut-être à un moment il y avait un retraité qui posait la question, et Emmanuel Macron lui a répondu « mais vous êtes tordu ».
Non, j'ai pas vu ça.
Alors, c'est impressionnant de dire ça à quelqu'un. Mm-hmm. Donc, il y a des choses qui sont quand même très révélatrices.
Ah, mais il est belliqueux, hein, dans sa manière.
Complètement, voilà. Et c'était surprenant. Donc, je lui ai rappelé ça, mais j'ai pas une vraie réponse. Il m'a dit oui, bien sûr, je suis le président de tous les Français. Et on a parlé, on est parti là-dessus. Et à un moment donné, je le regarde. Est-ce que vous connaissez le mot à la mode en ce moment ? Et il me regarde, non. Et je dis... Le mot démocrature, ça vous dit quelque chose? Et il me répond pas. Et il me fait un grand sourire derrière son masque. Alors c'était très drôle parce que moi j'avais complètement zappé, j'avais baissé le masque complètement en face. Et j'ai pas fait exprès. Mais c'était naturel pour moi de parler. Et alors c'était amusant. Mais mes amis m'ont dit, mais dis non, t'as pas mis le masque. Ça c'était pour l'anecdote. Mais sinon, j'ai vu quelqu'un qui était très agréable dans la séduction. Et très joueur. Je vais te dire pourquoi il est très joueur. C'est parce qu'à un moment donné, suite à ça, on a discuté sur des choses, mais il n'y avait pas de vraie réponse. Hein. Je le retrouve après, 5 minutes après. Je suis assis à la terrasse du café et il s'assoit prendre un café à l'autre terrasse avant de revenir en urgence sur Cahors à la préfecture, etc. Et là, je me lève et je bouscule tout le monde et je le pointe du doigt et je le regarde comme ça. Je lui dis, vous, monsieur Macron, vous n'avez pas intérêt à oublier ce que je vous ai dit. Et je l'ai un peu provoqué, mais avec le grand sourire. Et il m'a répondu avec le grand sourire. Il m'a dit, mais j'oublie pas, j'ai une bonne mémoire, quoi. Mais donc, il rentre dans le jeu de la séduction. Il est très joueur. Et on peut se laisser très vite, pas impressionner, au contraire, une certaine forme d'empathie. Et c'est cette forme d'empathie qui, pour moi, est dangereuse. Voilà.
Oui, c'est parce que ça fait partie de ce capital sympathie qu'on a pour la personne et qui, quand il parle, ce côté rassurant, un peu, voilà, de toute façon, c'est l'image du président de la France, qui est là, c'est un peu le papa, le patron de la France. Et donc, on se sent, voilà, rassuré. Voilà. C'est un peu comme le grand fiston, presque, le grand fiston brillant.
Ben, tout à fait, parce que ça pourrait être mon fils. Tout simplement.
Ça te fait quoi d'avoir un président plus jeune que toi ?
Ben, il a de la chance de ne pas être mon fils, déjà. Parce que moi, qui suis non-violent, j'ai un fils, il pourrait le confirmer. Mais là, j'imaginais très bien un grand coup de pied au cul quand il s'adresse comme ça à des personnes en souffrance. Mm-hmm. Quoi.
Et alors, au niveau du parcours de ce président, toi, tu t'étais renseigné un petit peu pour savoir d'où il vient, finalement. Et alors, comme ça, et peut-être expliquer un peu, enfin, que les auditeurs se rendent compte.
Oui. En fait, il est né à Amiens, dans la Somme. Donc, un peu au nord de Paris, hein, la belle Somme, tout ça, c'est nord, tout simplement. Et, alors c'est amusant parce que Ruffin vient d'Amiens et il était dans la même école, dans une classe différente. Bon, comme quoi, on voit des parcours différents avec un même lieu de départ. Mmh. Hein. Ça, c'est assez amusant. En fait, j'ai remarqué qu'il était déjà dans un milieu confortable et bourgeois. Son père était professeur en neurologie. Sa mère était médecin conseil à la sécurité sociale. Donc un côté à la fois confortable, fonctionnaire et puis professeur neurologue. Donc question finance, il n'y a pas de souci. Il était vraiment entouré par une famille en fait de professeurs. De professeurs, ses frères, alors je ne sais pas si c'est de frères ou sœurs parce que je ne l'ai pas noté ça, mais ils étaient dans le milieu aussi médical. Mais le côté prof est médical. Alors après, c'est quelqu'un de très brillant. Qui a suivi une école privée catholique, jésuite. Donc toujours le côté protégé, assez cadré et dirigé quand même. Hein. Mmh. C'était pas l'école laïque, publique. Et ensuite, tout le monde connaît un petit peu son histoire. Ensuite, il a connu une prof de français, n'est-ce pas ? Voilà, qui est devenue sa femme. Et avec les cours de théâtre, et il s'est passé ce qui s'est passé. Et ça, c'est leur vie privée.
Et ça les regarde.
Et c'est eu de l'amour, bah tant mieux. Mm-hmm. Voilà. Alors pour avancer, il est parti à Paris. Alors c'était très drôle parce que ses parents et les parents de Brigitte, qui s'appelait Brigitte Trogneau au départ, donc avant. Mm-hmm. Ont tout fait pour essayer de les séparer. Et donc, il est monté à Paris. Et comme c'était un élève très brillant, il a fait le lycée le plus prestigieux de Paris, le lycée Henri IV, où on prépare Hippocagne pour les hautes études politiques, entre autres. Voilà. À côté de ça, c'est assez étonnant parce que c'est là qu'on voit quand même sa capacité de s'intéresser à tout, d'être curieux de tout, parce qu'il a passé un bac scientifique. Il a une mention très bien. Et ensuite, il est parti à l'ENA. Je suis un raccourci. Hein.
Oui,
voilà.
Oui.
Il est parti à l'ENA. Donc, il s'est tout de suite mis dans le bain, tout en faisant une maîtrise, un DEA de philosophie. C'est quelqu'un qui a fait 10 ans de piano, qui a eu un troisième prix d'études, etc., qui faisait du ski, qui a fait de la boxe française, qui a fait du tennis. Quelqu'un donc, qui était très dynamique et bien intégré dans le côté étudiant, en fait. Donc, le rentré à l'ENA, il n'y a pas eu de problème. Il a eu son diplôme. Et ensuite, il a été obligé de faire des stages. Et donc, il a fait des stages à l'ambassade du Nigeria. Il a fait aussi un stage en préfecture. Donc, on voit tout de suite son parcours très protégé et très vite dans la fonction publique, ancré. Ensuite, il a été très vite repéré par... pour faire court, hein, par Jacques Attali et Jean-Pierre Jouyet, qui est une personnalité très importante, parce que les deux étaient conseillers de François Mitterrand, Attali Jouyet. Donc, on va dire qu'ils l'ont parrainé, qu'ils l'ont conseillé, qu'ils l'ont poussé en avant. Mmh. Et ce milieu-là, qui est un milieu très particulier, où on rencontre à la fois des gens très importants au niveau de la politique, mais aussi des finances. Il est arrivé très vite donc à la Banque Rothschild. Et là, forcément, il s'est trouvé avec les gens les plus riches de France. Et tout a été mis en place progressivement, notamment avec des donateurs et des personnes très importantes comme Drahi, Xavier Niel, qui sont des propriétaires de SFR et Free, et qui détiennent une grande, grande part des médias. Donc c'est ça qui est très important, et Arnaud et Lagardère. Donc tout ça, plus des parrains de très influents, très importants, ont permis sa construction pour arriver à ce qui était prévu, c'est-à-dire devenir le président, entouré, j'ai envie de dire, c'est pas forcément lui qui tire les ficelles, mais à un moment...
C'est ce que j'allais dire.
On sait plus trop si les ficelles, c'est les ficelles pour tirer la marionnette Macron.
Mais en fait, ce qu'on ne sait pas trop, et là pour sur ce sujet notamment, hein, je me rappelle par exemple le sujet de la vaccination sur le Covid. Avoir lu une dépêche information où les industriels qui fabriquent le vaccin demandent au ministère de la Santé qu'il propose 3 injections. À un moment donné, ce n'est pas un biologiste qui propose ça, tout ça, c'est un industriel qui veut, oui, donc qui influence, oui, une loi. On se rappelle sur les OGM, comment ça s'est passé, comment les lois ont été, comment les industriels ont influencé les lois, comment c'est lobby en fait. Je comprends, hein, cette question que tu soulèves. Qui tire les ficelles de qui? Est-ce que c'est le président qui tire les ficelles des industriels et qui les calque au niveau des lois de la République? Ou alors est-ce que c'est les lois de la République française qui se calquent au niveau des demandes des industriels? Le doute est permis.
Il y a un lobbying qui est très fort, même en Europe, parce que quand on regarde au niveau de Bruxelles et Strasbourg, ils ont carrément, certains ont des bureaux même dans les locaux, comme Monsanto,
par exemple,
Bayer, et puis et d'autres, plein d'autres.
C'est valable sur tous les pans, de l'agriculture, à la santé, partout, à l'énergie, partout. Voilà.
C'est, et d'ailleurs, ce sont eux qui proposent à l'Europe, ceux qui proposent une liste de, on va dire, de possibilités, d'idées. Et ce sont les députés après qui les regardent en même temps. Mais au départ, c'est presque plus le privé, le lobbying qui fait la dynamique et qui dirige un peu, voilà, au niveau du gouvernail. Alors après, c'est rattrapé parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'éthique que d'autres. Mais le problème, par exemple, c'est qu'ils connaissaient très bien le PDG de Sanofi, par exemple. Voilà. Donc, il connaît tout ce qui est ce qu'on appelle Big Pharma, il connaît tout ce qui est aussi les réseaux sociaux, il connaît très bien le directeur de Facebook, etc. Ce qui explique aussi pourquoi on a pas mal de censure dès qu'on commence à sortir du cadre imposé. C'est-à-dire qu'il suffit de dire qu'on n'est pas d'accord, des fois on se retrouve avec une censure.
Oui. Hein, tout à fait.
J'ai fait l'expérience, voilà. Même si on n'est pas affiché S, on est très vite listé. Donc il y a tout ça, tout ce mélange qui fait qu'après on a beaucoup d'un... Je comprends que les gens, moi y compris, on soit dans le doute. Je comprends aussi qu'il y ait des gens qui, comment dire, s'interrogent, et que parmi ceux-là, bah, s'arrange de dire qu'il y en a qui sont des complotistes. Alors il y a des vrais complotistes. Hein. Les vrais complotistes, c'est-à-dire quel que soit le sujet, il y a toujours ce côté, oh là, il doit y avoir un complot. C'est des personnes qui ont eux-mêmes peut-être un petit problème à régler aussi. Mais la plupart des gens, ce ne sont pas des complotistes, mais des personnes qui s'interrogent, qui sont curieux, et qui pour moi sont plus des lanceurs d'alerte.
Voilà. De toute façon, si complot il y a, dans ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas vraiment un complot qui est compliqué à comprendre.
Non,
c'est juste des gens qui ont une entreprise, et comme un directeur d'entreprise qui a envie de se faire de l'argent, et qui utilise tous les moyens nécessaires pour se faire. Quoi, en fait. C'est juste une histoire économique, finalement, hein, pour... que les puissants puissent être encore un peu plus puissants, et au détriment, eh ben, des moins puissants, de la population la plus pauvre.
Voilà. Donc, la chose qui c'est ça qui explique qu'il est complètement hors sol. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans sa vie, à part les moments de sport, peut-être. Mais c'est des moments, des fouloirs plus qu'autre chose. C'est pas en jouant du piano qu'il va rencontrer des gens de la rue, qui va, il a eu un parcours protégé. Et déjà, donc, d'une manière qu'on peut appeler élitiste.
Oui,
voilà,
tout à fait.
D'autres diront un peu plus aristocratique, d'autres bourgeois, d'autres confortables, on va dire.
Oui,
tout
chacun
simplement.
Chacun voilà. Peut y mettre le mot qu'il veut. En tout cas, une question à laquelle il arrivera peut-être pas forcément à répondre, hein, aussi économiste soit-il, ce président, c'est le prix d'une baguette de pain. Acte que tout le monde fait dans son quotidien, généralement, quand il va acheter son pain, il fait partie de ces gens qui ne l'achètent pas lui-même.
Exact,
on le fait pour lui.
Exactement. C'est qui avait fait, je me souviens plus à l'époque, c'est Soufillon, il y avait un homme politique, on m'a posé la question,
il
était tombé complètement à côté.
Oui, je me rappelle, ça, c'est voilà, des détails assez incroyables. Alors pour revenir à notre histoire, donc voilà, donc on a ce lien un peu, voilà, entre pouvoir et lobby là qu'on vient un peu d'expliquer avec comment des lobbies, eh ben, accompagnent leurs poulains petit à petit pour qu'ils prennent le pouvoir et etc. et puissent du coup, eh ben, continuer à être ensemble d'un commun accord. Et comment ils font du coup pour asseoir tout ça sur nous et pour qu'on puisse obéir? Eh ben, c'est là où on arrive un petit peu dans des intentions assez liberticides par ce gouvernement, et pour que nous, peuple, on obéisse et on soit dans le moule. Mais voilà, c'est des lois liberticides qui apparaissent les unes derrière les autres et qui s'entassent.
Ah, mais sont énormes ces lois, elles sont énormes. Je peux de tête en lister quelques-unes quand même comme ça. Et ça, en fait, ça a été déclenché. Le mouvement des Gilets jaunes a permis d'être un révélateur de ce gouvernement, de Emmanuel Macron, mais il n'est pas tout seul.
Il est entouré. C'est pour ça que je dis le gouvernement, en fait, voilà, c'est son équipe ministérielle.
Entouré, voilà, il est, c'est sa cour. Mm-hmm. Bah, en fait, c'est un président roi.
Oui, un président roi.
Ouais, c'est un président roi parce qu'il concentre tout. Il y a un côté complètement ce qu'on appelle aussi régalien, mais il a vraiment sa cour. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des personnalités fortes. Il choisit pas forcément des personnalités fortes. Il s'entoure de personnes parce qu'il brille avec ces personnes-là aussi, des personnes de confiance. Et la Russie a déstabilisé parce que les deux premiers ministres, ce sont des ministres LR, surtout pas de gauche. Voilà. Donc c'est quand même ça aussi, c'est révélateur pour un homme qui se disait de centre-gauche et avec des soutiens de beaucoup de cadres socialistes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu l'impression de se faire avoir.
Ah ben oui, hein, clairement.
Voilà.
Alors, je suis et beaucoup de socialistes qui ont tourné leur veste et qui ont aussi eu l'impression, qui se sont fait avoir aussi au passage.
Exactement, qui ont lâché Benoît Hamon, qui avait été élu démocratiquement, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Déjà, la démocratie socialiste, elle en a pris un coup.
Alors, sur ces lois liberticides, voilà, tu en avais recensé quelques-unes. Desquelles tu as envie de me parler? Parce qu'il y en a tellement, moi, je crois qu'on va pas pouvoir toutes les dire.
Non, mais dès le départ, il y a eu la loi anti-fake news. Alors, cette loi anti-fake news, elle m'a fait énormément sourire, parce que le premier à faire des fake news, c'est lui-même. Et Castaner, quand Castaner dit qu'il n'y a absolument aucune violence policière... Pour moi, j'avais envie de dire,
mais c'est une blague.
Mais personne n'a porté plainte pour fake news contre Castaner et le gouvernement lui-même qui a pratiquement imposé cette loi. Je dis pratiquement imposé parce que comme ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, alors il y a un petit barrage amusant des LR.
Symbolique
des LR, parce que faut pas oublier que LR et REM, bah c'est même niveau.
Hein. Oui, tout à fait.
On a découvert que c'était des concurrents à droite. Pour moi.
Oui, en fait, le seul problème de tout ça, c'est que ça déplace les curseurs,
tout
de manière
fait.
Générale. Le
tout
curseur des idées de droite-gauche, extrême-droite, extrême-gauche, voilà, c'est des curseurs qui se déplacent. Ce qui était socialiste à gauche, vire un peu plus vers la droite au passage, happé comme ça par LREM, qui lui tire vers LR, etc.
Ah oui,
voilà,
oui,
les curseurs se déplacent, en fait.
Alors, il y a cette loi anti-fake news, mais aussi la loi anti-casseurs, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on veut. Donc, elle est tombée à point nommé parce que quand on voit les images, donc je rappelle quand même que 80-90% des médias sont tenus par une dizaine.
Par une poignée de gens.
Une poignée de gens, les plus riches de France, qui sont, allez, on va dire 8 sur 10, des potes à Macron.
Tout à fait.
Ou plutôt des intérêts, des arrangements entre eux.
Voilà, et puis si c'est pas ça, c'est sur vers d'autres partis politiques que ça va se diriger, mais on est quand même... Il suffit juste de regarder un peu de manière consciente la même info traitée sur les différents canaux d'information, les différentes chaînes, et on va se rendre compte quelle est la vie politique, finalement, de ce qu'on nous sert.
Bien sûr, parce qu'il y a des parts dans les actions
de ces gens-là. Oui, il y a des parts de marché là-dedans.
Et il faut savoir, il faut aller plus loin que ça. Il y a même très fort aussi Bill Gates qui a subventionné chaque année un petit peu Le Monde et Libération. Et d'ailleurs, je ne reconnais plus du tout Libération.
Ah, merci.
Voilà.
Pareil.
Donc, c'est quand même bizarre.
Je ne l'achète plus du tout. Ben, ce n'est plus le même journal.
Ah non, plus du tout. Et donc, voilà. Donc, tout ça, c'est bien d'expliquer aux personnes qui n'ont pas le temps de se poser. Pour essayer de comprendre après ce qui s'est passé par rapport à cette histoire de Covid. Donc ça amène d'autres choses. Alors il y a d'autres lois liberticides, la fameuse loi de sécurité globale.
Alors là, celle-là.
Voilà. Donc avec le fameux article 24 qui a été modifié en article 52 en modifiant quelques mots,
Dans la loi séparatisme, la loi sur le séparatisme.
Voilà, et donc ils essaient de détourner, ils sont très très forts, c'est des marchands de tapis, c'est-à-dire qu'ils vont amener quelque chose de très lourd. En sachant que tout ne sera pas accepté, mais ce qu'ils veulent, c'est pas le top du top de ce qui est du pire, mais c'est juste un peu en dessous, ce qui fait que si on revient un petit peu en arrière et qu'on baisse un petit peu le curseur, les gens disent ah, on a échappé à ça. Cette technique, elle est extraordinaire,
terrible.
Et c'est celle qui a été adoptée là en commission paritaire par rapport au pass sanitaire.
Exactement, on agite un chiffon écarlate, tout le monde a peur, et du coup on fait un chiffon rouge et tout le monde a moins peur.
Voilà, donc on joue sur la peur des gens, le climat anxiogène.
Alors justement, tu es en train d'aller vers le pass sanitaire, et parlons justement de ce pass sanitaire et de ces vaccins et de cette situation dans laquelle nous sommes enlisés depuis plus d'un an maintenant, le circus Covidus.
Oui, quand on dit Covid-19, donc il a débarqué janvier 2020 et on a commencé à trembloter, en tout cas nous faire croire. Des gens ont trembloté à la radio, à la télé, au gouvernement, par rapport à ce Covid-19, donc année 19, pour nous, année plutôt 2020. Et par rapport à ça, là, j'ai eu l'impression de rentrer dans le monde de l'absurdité.
Oui, complètement. Dans le monde de l'incohérence aussi, dans quelque chose de complètement fou.
Et c'est à ce moment-là que ça a pris une ampleur incroyable au niveau des médias, qui étaient très porte-parole, BFM, CNews, LCI, etc., qui étaient très déjà porte-parole, dénigrant le mouvement des Gilets jaunes, mélangeant tout. Je ne sais pas si tu voyais à la télévision, il y avait toujours le bandeau, il y a marqué « Gilets jaunes de point ». Casse de machin ou les casseurs machin. Donc dans ton esprit, c'est comme une pub, il y a marqué gilet jaune, tu les associes automatiquement gilet jaune. Alors que 98% des gilets jaunes sont pacifistes, je tiens à le dire parce que moi j'étais actif, je voyais, c'était très très rare, très très rare. Il y en a eu certains qui sont entraînés par des black box ou des extrémistes ou quelques voyous comme on dit ou délinquants, mais Non,
c'est une minorité.
Non, c'était une minorité. Quand on regardait BFM, j'étais halluciné, puisque moi qui étais sur le terrain et qui regarde en plus d'autres médias sur Internet, que ce soit La Vraie Démocratie, RT France et d'autres, qui amènent sous un autre angle, qui n'est pas forcément le bon, le juste, le vrai, parce que la vérité, elle n'existe pas comme ça. Uniformément.
C'est un média, de toute façon, moi-même qui travaille dans un média, je travaille dans une radio, je le dis, un média objectif, ça n'existe pas.
Moi je peux te dire que pour qui tu votes, mais t'as tendance simplement dans l'intonation, dans les choses, tout le monde sait comme ça.
Et c'est comme ça, et c'est pas grave, et c'est ce qui fait la richesse d'un monde médiatique en fait.
Heureusement.
Aussi.
Heureusement. Voilà, c'est ce qui fait le pluralisme. C'est très important. Donc au début, c'était incroyable, ces histoires de pangolins, chauves-souris. Après, la fuite à Wuhan. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, les visons. Alors, on a tué des milliers. Alors, ça nous a permis de découvrir qu'en France, il y avait 4 élevages de visons dans des conditions lamentables. Merci le Covid, au moins pour ça. Des visons encore en 2020-2021. Non, mais on a découvert des choses grâce au Covid-19, ça c'est sûr. Voilà. Donc, à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? C'était la pagaille. Ah, une magnifique fake news du gouvernement. Oh là là, les masques inutiles. Ah non, non, faut les garder, c'est utile pour juste les personnes soignantes. Et encore, j'en avais pas au début, Moi, je sais que j'ai fait un tuto pour rigoler, mais j'ai fait pour moi et pour des amis. J'ai acheté un soutien-gorge bonnet B à Carrefour Contact, à la Bastille Murat. Je l'ai coupé en deux, j'ai récupéré les élastiques, j'ai fait une ouverture. Et tu sais ce que j'ai mis à l'intérieur? À l'intérieur, j'ai mis un protège-slip. et j'ai mis le tuto pour rigoler. Et le lendemain, qu'est-ce que je vois dans le journal La Dépêche? Les infirmières qui enlèvent leur soutien-gorge, ils disent voilà, on va être obligé de faire des masques avec nos soutiens-gorge, les bonnets.
Génial.
C'était marrant parce que c'était voilà, il y avait une synchronisation assez extraordinaire. Et je dis mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait plus de blouses, rien, c'était des sacs poubelles percés. Quand ils prenaient le stock qu'il y avait, ça se décomposait. Je sais pas si tu as vu les vidéos comme moi. Hallucinant, ils prenaient les masques, les élastiques qui pétaient d'office. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est simple, c'est qu'on est passé de 700 millions de masques à 700 000. Et qu'un des principaux responsables, c'est Buzyn et Salomon. Salomon qui était responsable à ce moment-là aussi des stocks. Et il ne fallait surtout pas le dire. Donc, ils ont fait un mensonge d'État, mais pour moi, qui est un vrai scandale. Ne sachant pas l'importance de ce virus, tout nouveau, on peut comprendre, balbutiement, panique un petit peu. Il n'y a pas de masque, pas de blouse. On ment au lieu de dire, voilà, on est dans la panade. On va vous sortir un tuto par la FNOR, mais ils l'ont fait, 3 mois de retard. Comment faire un masque avec des tissus? On est embarrassé. Voilà, on va se débrouiller, tout. C'est ça. Et on veut nous imposer une transparence, mais d'abord qu'ils se regardent, qu'ils balayent devant leur porte, déjà, pour commencer, quoi.
Oui, complètement, ouais.
Voilà. Donc, il y a eu ça. Donc, tu te dis, tous les soirs, Salomon, sur le ton grave, annonçant les morts, la courbe, etc. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je dis, non, ça y est, c'est bon, on recommence. La peur. Voilà, tout simplement, la peur.
Oui, 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 de toute façon, tout le monde, enfin, moi-même, je l'ai vécu, hein, cette injonction de peur. Et après, j'ai fait ce que j'appelle une infoxication, c'est-à-dire je me suis jeté sur les médias, j'ai lu tout ce que je pouvais et la peur qui continue à grimper. Et au bout de moment, je suis arrivé, voilà, comme un état d'intoxication. Mais voilà, c'était une infoxication, quoi, là, trop d'informations. J'avais peur d'aller retirer de l'argent sur un... Je me rappelle, à un moment donné, les distributeurs étaient devenus dangereux. On n'osait plus toucher rien et tout.
Oui, on conseillait à prendre le carte bleue sans contact.
Oui, voilà, comme ça, au passage, hop, un petit acte en plus dans la disparition de l'argent en liquide et de la numérisation. Et donc, une mainmise sur le transit financier au passage, hein, quand même, hein, qui s'est passé. Voilà, ça fait partie des petites choses sûres.
Complètement.
Qu'on nous a pas trop dit,
non.
Mais qui existe bel et bien, hein, réellement.
Ouais. Tout à fait.
Parce que ça a mis à mal une certaine forme d'activité financière. Hein. Mmh. Beaucoup de gens travaillent au noir, des petits boulots, de ci, de là, qui n'ont plus faire. Voilà, il y a plein de gens qui ont été laissés sur le carreau, hein, qui vont faire la plonge dans des restaurants, des jeunes, comme ça. Enfin, il y a tout un tas de monde. Et bien là, ça s'est été fini parce qu'ils n'ont eu aucune couverture sociale, hein, pendant les confinements, etc. Tout ça. Ça, c'est des choses.
Exactement.
Que ceux qui se reconnaissent, connaissent bien.
Alors quand je dis le monde de l'absurdie, parce que on va avancer par rapport à moi, ce que je ressens, c'est avancer par rapport au vaccin. Mais pourquoi les gens, il y a une forme de réticence et de méfiance, bah simplement de doute, qui est tout à fait normal, à partir du moment où dès la première mesure on nous a menti.
Voilà, c'est ça. Quelqu'un m'a dit sur une manif, vos mensonges sont la raison de mes doutes.
Exactement.
Et donc c'est vraiment ça, voilà, le mensonge, ouais, sur les masques. Déjà, eh bien, après on peut se permettre de douter sur tout le reste qu'ils vont nous, voilà, dire.
Alors c'est très bien le doute, parce que ça peut être un moteur de recherche. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on doute, donc on veut savoir. Mm-hmm. Donc c'est là qu'il y a eu des abus dans un autre sens. C'est-à-dire que grâce et en même temps à cause des réseaux sociaux, il y a des personnes très sensibles, peut-être un peu parano, qui ont une surpeur, qui ont été un peu loin dans leur recherche, c'est des recherches dirigées. On lit, on regarde ce qu'on a envie de dire et regarder souvent inconsciemment. Mmh. Et donc c'est là qu'a commencé les histoires de complotistes. Mais en y regardant de près, je saute toutes les étapes, le pass sanitaire. Eh ben, on traitait les gens de complotistes il y a 2 ans qui disaient, attendez, on va avoir le pass sanitaire, on va avoir une identification. Même si c'est pas encore l'histoire de puce, etc. Mais on va avoir cette obligation d'identification et de passe pour pouvoir faire les choses. Mmh. Et on y arrive.
Mais oui, on y vient doucement, oui.
Alors, merci, monsieur Macron, qui donne raison finalement aux complotistes sérieux. Mmh. Voilà, c'est ce que j'appelle les lanceurs d'alerte.
Oui, mais entre avoir une vision éclairée du monde ou être complotiste, en fait, c'est, ça peut être, on va dire, fragile, la frontière entre ces deux choses-là. Mais après, c'est juste comprendre comment le monde fonctionne, quoi, en fait. On n'est pas en train de dire le truc, le virus a été inventé dans un laboratoire pour décimer une partie de la population humaine, ils ont un plan comme ça de diminuer la population humaine parce qu'on est trop. Non, c'est pas ça qu'on dit. Ça fait partie de certaines dérives complotistes. C'est juste soulever la question. À qui profite le crime? Oui, voilà, il y a un lobby pharmaceutique qui existe, on envoie des vaccins partout, on dit aux gens la vaccination ne sera pas obligatoire, mais le pass sanitaire la rend intrinsèquement obligatoire, etc.
Alors si on continue, il y avait l'histoire tu te souviens les histoires à l'aéroport de Chine avec des stocks qui ont été rachetés par les Américains, ce qu'ils ont payé plus, etc. Enfin, on est rentré dans un vrai délire.
Ah, mais oui.
Et nous, de notre place de personnes lambda, mais c'est quoi alors là? Du coup, ça rajoute encore de la panique, parce que si entre pays ils se tirent dessus et ils prennent les stocks des autres, ça renforce l'angoisse de dire oh là là, ça doit être très grave. Mmh. Et tout ça cumulé. Alors après, il y a eu l'histoire de tests PCR qui sont arrivés beaucoup de retard.
Énormément de retard.
Alors c'est là que des personnes qui dérangent, qui sont devenues complotistes par les médias et par les politiques en place, c'est à ce moment-là que le professeur Perron a simplement dit, c'est pas n'importe qui. Hein. Mmh. Hein, voilà. Donc il s'est occupé notamment de l'OMS, qui a été directeur de plein d'instituts importants par rapport à la santé en France. Et l'OMS, qui a dit, mais attendez, là, pas le masque. Après on dit, ah oui, terrible le masque. Un mois après, obligatoire, si on ne met pas un PV de 135 euros, il faut quand même le rappeler. Hein. Mmh. Voilà, ça, de coup, on nous prend pour des... Hein. Et là, le test PCR... Et on apprend qu'il y a des faux positifs, des faux négatifs, que c'est pas fiable à 100%, et qui sont arrivés très lentement. Donc entre les masques qu'il n'y avait pas et ça, Perron a fait son petit calcul, il a dit, bon, peut-être 5 000, 10 000, on aurait peut-être pu éviter 5 à 10 000 morts. Oh là là, qu'est-ce qu'il a dit là? Surtout pas. Et il le paye, hein, il le paye maintenant cher parce qu'il est convoqué avec Raoult et d'autres à l'ordre des médecins. L'ordre des médecins qui est pas, on peut pas dire qu'il soit complètement indépendant. Hein.
Non, non voilà. Plus. On est bien d'accord.
Voilà. Donc il y a eu tout ça et automatiquement ça allait pas dans le sens du gouvernement. Donc nouveau flottement. Donc pour les gens qui regardent BFM qui sont des porte-parole du gouvernement, on le sait maintenant, mm-hmm. hein, depuis longtemps. Il y en a encore qui le découvrent et je peux très bien comprendre. On se dit, mais alors là, on n'y croit plus. Il y a des gens qui n'y croient plus du tout. Et là, c'est pas des complotistes, c'est des personnes en live. Mais qu'est-ce que nous fait là? Il nous dit oui, il nous dit non. Dans le RER, on peut. Il y a pas de confinement pour eux, il y a pas de problème. Ils sont entassés les uns sur les autres et dans d'autres situations, on peut même plus se voir par groupe de six. Mais on dit non, mais c'est du grand n'importe quoi. Je dis qu'on est vraiment dans le monde de l'absurdité.
Mm-hmm. Oui. Quantité d'incohérences comme ça qui font partie d'une technique d'enfumage en fait.
Complètement.
Ça nous éloigne d'une forme de d'une compréhension sensée de la question. En disant tout et son contraire, un jour on nous dit une chose, un demain son contraire, le lendemain on arrive à nous dire encore le contraire d'un contraire. Et comment se construire un avis? Donc je crois à un moment donné, il faut couper le canal info et hop et commencer à essayer un peu de reprendre possession de la vie. Enfin, moi, c'était mon processus.
Ah, mais complètement. Parce qu'on peut être très vite. Moi, j'étais très impacté. Mm-hmm. Pas très impacté du tout. J'ai pas peur du virus.
Ah, moi, j'ai pas eu peur du virus. J'ai eu peur de ce que l'information me disait, finalement.
Oui. Moi, j'ai eu peur de ceux qui nous dirigent.
Moi, j'avais peur des conséquences liberticides voilà. qui allaient en découler. Et oui, ben voilà, si j'étais un complotiste il y a 2 ans en disant qu'il faudra un pass sanitaire partout pour rentrer plus tard. Eh ben oui, voilà. Comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui,
tout à fait. Voilà. Donc on en arrivait à cette confusion. Alors ce qui était très inquiétant, c'est aussi le protocole de Raoult, qui aurait pu être intéressant parce que moi je suis pas ni professeur ni scientifique, je suis comme toi, je suis là, j'écoute, j'essaye de comprendre, je vais fouiller les documents, je vais regarder des études. Donc toutes les études sont contradictoires, il y en a des pour, des contre, ça dépend des pics, etc. Bon, ça aurait été tellement plus simple. Il l'a demandé, j'ai regardé une dernière vidéo du professeur Roux qui lui-même a demandé à rappeler Macron il y a quelques mois de ça, qui a dit « mais moi je veux bien, on fait des essais, ensemble, mais ensemble ». Parce qu'il a pas, lui-même n'a plus confiance de toute façon. Et donc il n'y a pas eu d'essais, ça a été arrêté par cette histoire qui en rajoute, The Lancet, voilà, qui critique à fond une étude randomisée sur l'hydroxychloroquine et qu'après il se rétracte. Alors que si ça se trouve, ça fonctionne pas, effectivement. Mais le fait de se rétracter parce qu'ils ont dit n'importe quoi, c'est, mais comment, qui croire? Voilà, ça rajoute de la confusion, comme tu disais, plus le remdesivir. Alors, on avait un traitement, là, qui débarque. Gilead. Énorme, Gilead. On signe le contrat, et dès le lendemain du contrat, on apprend qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être très graves au niveau rénal. Il y a quand même eu pour plus d'un milliard de contrats. Signé. Et 37 pays, pas seulement les pays de l'Union européenne, 37 pays. Donc, quand tu mets bout à bout tout ça, tu dis soit ils sont totalement incompétents, soit c'est de la manipulation avec des intérêts, une confusion voulue. C'est un mélange.
Oui.
Avec les lobbyistes, parce que c'est plus du lobbyiste, parce que ce sont des potes, ils se connaissent, c'est des arrangements entre amis. Pour moi, c'est tout bête. Hein.
Oui. Ça, je suis bien d'accord sur ça. C'est un peu ce qu'on peut supputer sur cette histoire du pass sanitaire et de vaccination obligatoire. Alors, je voudrais revenir un petit peu justement sur ces vaccins. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi, sur les vaccins, sur ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que tu en ressens?
Alors,
qu'est-ce
moi, que penses? D'entrée de jeu, je te dis, je ne suis pas vacciné. Mm-hmm. Je ne suis pas un anti-vaccin. Que les gens se vaccinent, je comprends tout à fait. Je dis, c'est bien. Pour eux, s'ils ressentent, si ça leur permet d'être mieux dans leur vie et d'être rassurés. On emploie toujours le mot rassuré parce qu'en face, on nous met une peur. Donc quand tu regardes déjà les graphes, on l'a regardé un petit peu tout à l'heure ensemble, parle plus de mort. Alors il y a une flambée des cas, ce qu'on appelle des cas, ce qui veut tout dire et rien dire, hein, des cas. On parle qu'il y aura bientôt plus de lits pour l'hospitalisation. On a un remplissage j'ai les graphes d'il y a 3 jours, de la santé publique. Donc même ceux-là, ils auraient pu être un peu arrangés. Mais non, je fais confiance. On est entre 5 en gros et 22% d'occupation des lits. On arrondit, on va être sympa, on va dire 30%. Il nous reste 70%. Je vois pas l'affolement et la nécessité délirante pour moi. Nous ne sommes plus dans une grande pandémie, comme il y a eu au début, on peut comprendre la panique, la déstabilisation, même des politiques. Et même des scientifiques qui sont pas d'accord entre eux, ce qui est quand même extraordinaire d'avoir des spécialistes sur qui on peut se poser, être rassuré, qui sont pas d'accord entre eux. Donc ça rajoute encore plus de confusion et de doute, alors qu'on a les experts en face de nous.
Oui, oui, oui.
De même niveau, de même compétence, de même renommée. C'est quand même fou, hallucinant. Donc, moi, quand on commence à rentrer dans la folie, le côté hallucinant, je fais trois pas en arrière. Et comme ça, j'essaie de regarder toute l'affiche au lieu de voir la tâche qui me dérange.
Oui, 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 tout à fait.
Ce qu'on appelle une vision globale. Ça permet de... Je dis, attends, il y a des histoires d'argent, des histoires de Big Pharma, et il y a des histoires de... C'est quoi, Buzyn, tout d'un coup, elle est plus là, elle se retire à un moment, elle a dit qu'elle avait alerté, et machin, même entre eux, ils sont incapables de... Enfin, bon, c'est fou. Il y a une enquête parlementaire, Sénat-Assemblée, qui a duré 6 mois, mais c'est catastrophique les résultats par rapport à ça. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, Véran et Buzyn vont être convoqués par la Cour de la justice de la République.
Encore deux autres.
Oui.
Je me rappelle, l'encore président, il avait dit au début de son mandat, si un de mes ministres est convoqué, est assigné en justice, il ne sera plus ministre. Maintenant, ça, on va commencer à chercher lequel n'est pas assigné en justice dans ceux qui nous gouvernent.
Bah,
c'est dire c'est la confiance qui peut régner. Alors, donc voilà, pour les vaccins, donc il y a plusieurs types de vaccins aussi qui existent. Peut-être, il va être un peu compliqué d'expliquer tout ça, la différence un peu entre ces vaccins à ARN messager, les vaccins un peu plus traditionnels, et peut-être t'as des sources d'informations, des moyens de trouver ces informations à donner aux auditeurs.
Oui, il y a pas mal. Moi, j'en mets pas mal. Je dis bien, je suis encore sur Facebook. Je pense que je veux pas rester. Mais il y a des moyens de trouver vraiment des explications et des tutos. Le problème, c'est qu'il faut garder... C'est-à-dire, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, c'est pas forcément une vérité à 100%, mais il y a des tutos qui sont très bien faits, qui expliquent. En fait, qui expliquent qu'il y a très très peu de chance, par exemple, avec les ARN messagers. Le mot fait peur parce que on parle de copie ADN, etc. Donc, dans la tête des gens, c'est nouveau. Effectivement, c'est nouveau. Mais quand on dit qu'il y a une efficacité entre 90%, en gros, 95%, que ce soit Pfizer ou les autres, un peu moins AstraZeneca, qui est plutôt un vaccin traditionnel. Il faut aller sur les tutos, parce que moi, je me permettrai pas d'expliquer, parce que je suis pas du tout un scientifique.
Pour ça que je te demande plutôt les sources d'informations, pour que les gens se construisent aussi leur propre vie.
Il faut vraiment aller sur les tutos, regardez toujours quand vous allez dans une information. Je dis ça à ceux qui sont pas habitués, bien entendu.
Oui,
c'est toujours
fait,
bien
c'est
de important. Préciser, parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. De regarder les sources, d'où ça vient, très important. Oui. C'est sûr que si on a une source qui vient, j'en sais rien moi, de l'extrême droite ou d'une télévision qui est réellement reconnue complotiste, on peut être sûr que ça ira pas du tout dans le même sens. Donc il y a des choses qui sont très bien faites par des scientifiques et qui expliquent que le danger est pratiquement inexistant par rapport au fait que ça peut modifier l'ADN et les choses, mais c'est pas du 100% déjà.
Et il n'y a pas beaucoup de recul dessus aussi non plus.
Alors voilà, le problème, raison pour laquelle je ne suis pas vacciné. Parce que tout simplement, quand on fait un vaccin ou un médicament, pour faire simple, il y a 4 phases. Voilà. La phase de départ où on commence à faire des recherches, on voit dans quel sens on va, pour quelle raison on va essayer de trouver ce médicament, ce traitement. Bon, après, il y a des phases progressives qui sont faites aussi sur les animaux, malheureusement. Et après, il y a une phase de test avec des études plutôt randomisées, donc ce qu'on appelle aussi d'une autre manière aussi avec des méta-analyses, donc des croisements et des recoupements. Bon. Mais c'est fait à une échelle qui est petite encore. Normalement, la validation est faite avec un nombre assez conséquent de personnes qui permet de voir sur la durée, parce que la notion d'effet secondaire. Et les effets secondaires avec une nouvelle façon de vacciner qui, pour certains, n'appelle même pas ça un vaccin. Il y en a qui appellent ça thérapie génique et autres. On va dire vaccin, c'est parce que c'est le corps qui réagit d'une manière ou d'une autre, donc on peut l'appeler vaccin d'une manière générale. On n'a pas de recul du tout avec ce nouveau mode, ce nouveau système ADN ou ARN messager. Donc, on peut comprendre les personnes. Moi, le premier, je ne souhaite pas ce qu'on m'injecte quelque chose qui n'a pas fait du tout ses preuves, même dans l'urgence, parce que on s'aperçoit que maintenant, il n'y a plus réellement d'urgence, entre 5 et 20 cas par jour de mort. Mmh. Donc on se pose la question, on rebondit sur le pass sanitaire en même temps que le vaccin, pourquoi culpabiliser les gens? Pourquoi les traiter, comme a fait notre cher président, traiter les non-vaccinés d'irresponsables et d'égoïstes, alors que je connais une majorité de personnes qui se sont fait vacciner, qui le font, et je respecte, aussi par égoïsme. D'ailleurs, la preuve très simple, le lendemain du discours de Emmanuel Macron avec le pass et la vaccination pseudo-obligatoire, mais qui serait, ça veut dire obligatoire, hein, parce que sinon on a plus de vie, et ben dans la nuit, il y a eu plus d'1,2 million d'inscrits pour se faire vacciner. Oui. Et j'ai croisé des gens, notamment des jeunes hier, qui m'ont dit, bah ouais, mais nous, on a envie de faire la fête, on a été brimés pendant 1 an et demi, c'est insupportable, et donc on va se faire vacciner, mais avant tout, c'est pour se lâcher de cette frustration, de cette mainmise de l'utilisation de ce virus par rapport au confinement, etc., au couvre-feu, qui rappelle la guerre quand même. Mmh. C'est une réalité. D'ailleurs, Macron l'a employé le mot guerre. Mmh. Donc, on pourrait se poser des questions là-dessus aussi.
Oui.
Voilà. Donc ce côté-là, j'ai un grand... vraiment, moi... d'ailleurs, je ne pose pas la question. Est-ce que je pose la question si il est vacciné de la rougeole ou si il est vacciné de la grippe?
Mais en fait, c'est, à la base, ça relève du secret médical. Parlons aussi de ce pan-là, en fait, du droit français qui tombe. C'est-à-dire que ben, moi, à un moment donné, dans ma vie d'animateur de radio, si je dois faire un atelier en milieu scolaire ou quelque chose comme ça, si on me demande mon passe sanitaire, on me demande si j'ai fait un acte médical ou pas pour avoir le droit de travailler. Acte médical qui va être découvert par l'employeur, qui peut être découvert par un vigile à l'entrée d'un supermarché, par un cinéma, un théâtre, ou que sais-je. Et ça aussi, c'est quelque chose de fort et d'important. Moi, régulièrement, je le dis à cette antenne, hein, qu'est-ce que ça aurait pu donner si c'est l'équipe gouvernementale en ce moment qui gère cette crise, qui aurait dû gérer la crise du VIH à un moment donné, quand on sait ce qui s'est passé pour les populations noires ou les populations homosexuelles sur cette crise-là. C'est quelque chose qui aurait été horrible. Ça aurait été liberticide, mais au possible.
Oui, parce
je
ne
peux même pas imaginer, en fait.
Oui, oui. C'est pour ça qu'on en arrive à ce phénomène de discrimination. Et c'est ce que tu disais, en fonction à l'hôpital, en fonction si tu es au service, justement.
Oui, il y a eu des histoires comme ça. Alors, des hôpitaux, on mettait une blouse de couleur différente aux personnes suivant si elles sont vaccinées ou pas, pour savoir si on les approche ou pas. Il y a des campings, ils ont des bracelets de couleurs différentes, savoir s'ils sont vaccinés ou pas, pour accéder suivant les services aussi. Alors oui, dans les campings ou les festivals, on me dit, hein, il y avait des festivals, enfin des bracelets suivant les jours qu'on était auxquels on pouvait accéder. Mais là, ça représente une autre donnée, cette chose-là. C'est-à-dire que la personne non vaccinée, celui qui est vacciné va avoir peur de lui. Mmh. Peut-être que celui qui n'est pas vacciné va regarder celui qui est vacciné en ayant un préjugé sur lui, en le considérant comme un mouton. Et comme ça, ben, on sépare petit à petit les gens, en fait, plutôt que de nous laisser nous unir.
Alors c'est très étonnant parce que par rapport aussi au serment d'Hippocrate et par rapport au secret médical, justement, j'ai très surpris qu'il n'y ait pas plus de réaction des médecins en disant, attendez, le secret médical, il est où? C'est ce que tu disais.
Alors, on ne sait pas. J'entends ce que tu dis. Moi, j'ai reçu sur cette antenne une médecin qui s'est retirée de l'ordre des médecins, qu'on la connaît localement. Si j'ai pu avoir cette information, c'est parce que je la connais ou que j'ai lu de la presse locale. Localement, il doit bien y en avoir un peu partout, des objecteurs de conscience et des lanceurs d'alerte. Il y en a dans tous les corps de métier, il y en a partout. Mais c'est juste, on ne leur donne pas une place dans la masse média pour qu'ils puissent exprimer cette parole d'opposition. C'est surtout ça, en fait.
Ah, mais là, dès qu'on est dans l'opposition, ça y est, le mot à la mode, il y a 3 mois, on le répète, c'était complotiste.
Hein. Oui.
Dès qu'on est en désaccord, voilà, le professeur Toussaint qui expliquait les choses à sa manière, d'une manière très très claire, ça y est, il est devenu complotiste. Voilà, et puis on met des médecins qui, de plus en plus, qui sont proches, on a l'impression que c'est des porte-paroles du gouvernement.
Ah, mais complètement.
Voilà.
Complètement.
Donc, je comprends le flou partout, je comprends parfaitement, et je crois que la majorité des gens, respectent ceux qui se sont fait vacciner. Moi, ce que je demande simplement, que ces personnes-là, et la majorité le font, hein, respecte les personnes qui pour l'instant attendent. C'est un choix personnel et j'ai envie de dire une phrase qui est toute simple, c'est que le corps humain est la propriété inviolable et sacrée de la personne.
Mmh, tout à fait.
C'est la phrase très simple. Dans les lois qui existent, on peut de toute façon contester encore. Il y a toute une série d'articles, que ce soit par rapport aux droits de l'homme ou autres, hein, même par rapport à l'Union européenne, qui protège la liberté, de son corps. Mmh. Voilà. Alors que on soit pas content parce que on peut être insultant et tout, et puis qu'on dit oh c'est pas bien et tout. Et non, mais même là déjà c'est grave parce qu'on est censuré en permanence avec toutes les lois liberticides. Mais c'est en plus le corps. C'est même pas la réflexion intellectuelle. Mon corps m'appartient. Voilà, c'est moi qui décide. À partir du moment où il y a aucune preuve absolue du danger, et d'ailleurs quand on est vacciné, on peut être porteur du virus d'une façon manuportée et même encore aéroportée, même si c'est tout simplement, on va au magasin, on ressort, on serre la main à quelqu'un, on lui a refilé. Alors, j'ai envie de dire, lui, il est tranquille, il est vacciné. Mais il refile à l'autre involontairement. Et donc, on est tous à la même enseigne, vaccinés, pas vaccinés. D'autant plus que les non-vaccinés et ceux qui attendent représentent à peu près 20%. C'est-à-dire que ceux qui veulent vraiment se faire vacciner, ça correspond à 80%, c'est ce qu'on demande, 75-80% pour une immunité collective. Qu'on laisse les gens vivre, qu'on les oppose pas. Moi, c'est ce que je souhaite autour de moi quand je discute avec les gens vaccinés qui commencent à me traiter d'égoïste. Je dis, mais en discutant avec eux, je dis, mais vous l'avez fait pourquoi ? Puis au bout de 5 minutes, ben, on se rend compte que c'est par égoïsme. En tout cas, c'est personnel ou pour leur petite famille que je comprends tout à fait.
Oui. Donc, oui, c'est pas le problème du jugement de la raison, quoi, en fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais après, à un moment donné, il y a aussi, voilà, ces histoires de logique. Si quelqu'un qui est vacciné n'a plus à se méfier de quelqu'un, en théorie, de non vacciné, à un moment donné, il est protégé, en fait. Ça relève vraiment de son choix personnel, que je sache.
Mais complètement. Donc, surtout, il ne faut pas rentrer dans le jeu de ce gouvernement relayé par les porte-paroles que sont les médias de la TNT. Tu sais comment on les appelle, les médias, pendant le mouvement des Gilets jaunes, les premiers à avoir dit un mot qui est pas joli.
La masse merdia.
Les merdias et BF Merde TV. Pourquoi ? Et ce sont des journalistes indépendants qui ne supportaient plus, dont certains ont démissionné d'ailleurs, qui ne supportaient plus ces médias. Donc il y a une vraie manipulation de masse. C'est un peu comme la pub.
Ah mais tout à fait, c'est la manipulation des chiffres. C'est voilà. Quand on te dit 96% des gens récemment infectés par le Covid ne sont pas vaccinés, mais heureusement, j'ai envie de te dire.
Oui, c'est comme je disais, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que s'il y a un mort et le lendemain il y en a deux, il y a 100% d'augmentation.
Voilà, c'est très facile de faire ça, quoi, en fait. Hein
et on fait ce que veut des chiffres. Bon, ben, comme il n'y a pratiquement pas de morts, on n'en parle plus.
Mais voilà, et on manipule autrement. Quoi,
Alors, la flambée des cas.
Oui. C'est ça. En ce moment, c'est la flambée des cas positifs.
Le mot flambée. Le feu.
C'est ça. Mais on est toujours dans cette chose de peur, un peu de guerre, de choses malsaines. C'est un champ lexical qui est clairement, qui est clairement adopté.
Alors, j'avais quelque chose qui me tenait à cœur.
Vas-y.
C'est qu'il y a eu une polémique sur les personnes qui manifestaient, c'était de bonne foi, qui n'ont peut-être pas regardé l'histoire, mais qui faisaient un parallèle avec la discrimination, tu sais, l'histoire de l'étoile jaune.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a une dernière personne encore vivante qui a subi les rafles, etc., qui a eu l'étoile jaune pendant longtemps, pendant la guerre, qui a été choquée, qui disait, mais c'est pas bien de comparer, mais c'est que les gens qui mettent l'étoile jaune ne comparent pas. La seule chose qu'ils voulaient dire, c'est peut-être une maladresse de départ, mais c'est que, il y avait les mêmes interdictions. La 9e ordonnance, j'ai regardé, c'est pour ça que je me mets d'en parler, de 1942, 15 jours avant les rafles, précisait bien la liste des commerces, des administrations qui étaient interdites aux Juifs. Et donc, on se retrouve dans le même... C'est pas une comparaison, c'est un parallèle.
Oui, à ce
niveau-là, ça n'a rien à voir avec les atrocités, bien entendu, des Juifs. Donc... Moi, par exemple, j'ai mis une étoile verte. Parce que, personnellement, j'ai dit que le jaune, ça pouvait être interprété. Effectivement, ça a démarré au quart de tour. Alors, arrêtons d'utiliser ça aussi pour monter les gens les uns contre les autres. Ça a été repris par les politiques. Alors, je pense que la plupart des personnes qui ont mis une étoile jaune, bah, ils vont être un peu plus raisonnables, changer de couleur ou changer un peu la forme des choses. Mais il y a un parallèle qui est vrai de discrimination. De ségrégation. Comme tu disais, au niveau, à une certaine époque, ça pouvait être racial ou autre. On retrouve déjà ça, comme tu disais, les bracelets pour les campings, les blouses de couleurs différentes. Et on est en train de diviser encore plus les gens et diviser pour mieux régner. Toujours la même chose.
Et de marquer physiquement la différence.
Et
ça, c'est grave.
Ouais, très grave. Côté-là.
Et alors, dans les incohérences aussi, pareil, hein, profitons de ce, sur le, on va dire, c'est là où on va arriver à la fin de cet enregistrement. Mais alors, donc il y a ce pass sanitaire, on impose, là, on voit bien, on parlait donc des lobbies, hein, qui sont là un petit peu, qui sont dans l'arrière-cour gouvernemental, j'ai envie de dire. Les centres commerciaux, eh ben paf, par magie, d'un seul coup, on peut aller au centre commercial, on n'a plus besoin de passe sanitaire, on peut y aller sur la terrasse d'un café. Il faut être sous passe pour aller boire un café. Mais par contre, le policier qui va venir nous contrôler, lui, ne sera pas sous l'obligation vaccinale. C'est un des seuls corps de métier, finalement, qui n'est pas embêté. Ça, déjà, je trouve ça d'une incohérence, mais la plus... L'armée aussi, je trouve ça hallucinant. Mmh. Et la chose qui m'a le plus... une des choses qui m'a le plus choqué, hein, que j'ai annoncé, là, c'était hier soir, quand je faisais donc le retour, hein, enfin l'explicatif en précis de ce pass sanitaire, que les centres médico-sociaux soient soumis à l'obligation du pass sanitaire, je crois que c'est une des pires choses qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, c'est pour aller voir une assistante sociale. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà en situation de grande précarité, qui est peut-être même éloigné, hein, de la vaccination, s'il avait envie de se faire vacciner. Eh bien, on le précarise encore plus. On le stigmatise encore plus à travers des choses comme ça. Et ça, je comprends pas. Je t'avoue, là, c'est le...
Je sais pas, il faut aller demander, tiens, aux complotistes de l'époque. Hein, les fameux complotistes qui ont eu raison. Alors, attention, je mets pas en avant les complotistes. Au contraire, parce qu'il y en a des très mauvais, parce qu'on a annoncé des mauvaises choses et des gens qui sont entrés presque dans une parano. Je parle pas de cela, je parle des lanceurs d'alerte, curieux, intellectuellement et intelligents, qui ont remarqué l'évolution de ce qui se passe. C'est pas franco-français, hein. Il y a vraiment une volonté européenne. Ah non,
c'est ça.
Européenne,
le pire, c'est mondial. Que c'est mondial.
C'est mondial.
C'est là où c'est hallucinant, c'est que le pass sanitaire, il va être un peu partout, de l'Italie à l'Australie, sur tous les continents. Voilà.
Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il y a quelques mois, ça fait peut-être bien 6 mois, dans un discours de Macron, j'avais été étonné qu'il emploie le mot qui était le mot des complotistes, le nouvel ordre mondial, et l'employait lui-même.
Hein. Oui, je m'en rappelle.
Oui, oui. Donc, alors Macron, t'as complotiste alors. On va pas conclure sur ça pour moi de mon côté, mais moi ce que je veux dire, l'absurde, c'est qu'on voit bien, c'est le côté, faut que les gens prennent conscience que d'abord c'est pas facile de gérer une pandémie, et je comprends tout à fait le gouvernement, mais il y a tellement d'incohérences, d'incompétences qui ne sont pas vraiment des incompétences, parce qu'on se demande si cette confusion elle est pas voulue, par rapport à ces histoires de nouvel ordre mondial, parce qu'il était prévu une crise économique, faut le rappeler, avant le Covid et au moment des gilets jaunes, ce qui a retardé. Ils ont eu très peur, hein, du moment des gilets jaunes à un moment donné. C'est quand on arrive à être marchand de tapis à ce point-là, c'est-à-dire que je me répète, on dit des choses très fortes, c'est-à-dire oui, vaccin, 12 ans d'entrée de jeu, tout de suite, on interdit ça, 45 000 euros d'amende, 1 an de prison pour les restaurateurs et tout, c'est-à-dire qu'on met le maximum qui choque, qui met en colère les gens, pour revenir à des choses plus basses, pour que les gens disent ah ouf, non pas ouf, parce que c'est pratiquement rien. On peut toujours pas, soi-disant, on allait peut-être pouvoir aller en terrasse, mais non, même ça, c'est interdit.
On peut travailler, rentrer chez soi, on peut, à la limite, aller acheter à manger, et encore, ça va devenir de plus en plus compliqué, peut-être aussi, et c'est tout.
Et qu'on m'explique les millions de personnes qui prennent le RER entassé les uns contre les autres.
Ça, on peut pas l'arrêter, sinon ils n'iront pas, ils seront plus les rouages de la société.
Et que pour prendre le TGV, pour prendre en vacances, on ne peut pas. Et comme c'est pendant les vacances et que le discours a été malin fait avant les grands départs, eh ben, les gens vont se précipiter d'une manière égoïste. Je parle de ceux-là, je parle pas de ceux qui le font d'une manière aussi collective, dès le départ, conscientisée. Mais arrêtons de dire que les non-vaccinés, ce sont des égoïstes, ce sont des personnes qui ont une forme de sagesse. D'autres, il y a des personnes qui vont se vacciner, qui font confiance, qui se disent, après tout, on verra, apparemment, les effets secondaires, ça se passe bien. Chacun est libre de faire, mais j'ai envie de dire, pitié, ne rentrez pas le jeu d'un gouvernement qui est dans des lois liberticides, ne rentrez pas dans ce schéma-là. Regardez votre voisin comme toujours, comme avant, ne jugez pas, gardez surtout les précautions sanitaires simples, ordinaires, il faut les garder qu'on soit vacciné ou pas. Voilà, les gestes barrières, ce qu'on appelle, c'est un mot aussi, ça, le mot barrière, ça, il y a plein de mots comme ça, c'est quand même...
Distanciation sociale, barrière... Ouais.
Donc, je pense qu'il faut que juste les gens regardent un petit peu moins BFM TV, CNews, LCI, ces télés qui... C'est du bourrage de crâne, quoi, au bout d'un moment, et surtout que ça tourne en boucle.
Ah mais oui.
C'est comme un feu de cheminée, on laisse allumer aussi, parce que c'est vrai que les gens des fois ont besoin de présence. On se rend pas compte, c'est que on se fait
vite taper.
Ouais, voilà.
Eh bien, en tout cas, je te remercie beaucoup de cette discussion, Jean-Pierre. C'était un plaisir de pouvoir prendre le temps de parler de tout ça, de prendre le temps de délivrer cette parole citoyenne hein, qui manque un petit peu quand même dans le paysage médiatique, je trouve, en ce moment.
Bon, et puis, je fais un petit clin d'œil. Hein,
vas-y.
Emmanuel Macron, hein, mon... hein, il entendra peut-être pas parce qu'il est occupé à plein d'autres choses, mais si quelqu'un l'enregistre pour lui, souvenez-vous de moi, le grand brun là, qui a oublié de mettre son masque. Vous m'avez dit que vous avez la mémoire, que vous allez retenir ce que j'ai dit, mais j'y crois plus du tout. Hein. Enfin, j'y ai jamais cru en fait. Mais c'est juste un clin d'œil, voilà.
Merci.